nos deux précédentes causeries ont développé un grand thème biblique, la nouvelle naissance. Nous avons vu que l'enseignement apostolique concernant le baptême s'harmonise parfaitement avec cette formule du Christ « Il faut que vous naissiez de nouveau ». Dans le même ordre d'idées, là où Jésus parle de la nécessité d'une renaissance, l'apôtre Paul souligne qu'il faut ressusciter à une nouvelle vie. Il s'agit évidemment d'une résurrection spirituelle, une première résurrection qui précédera la résurrection des corps. C'est un renouveau de l'esprit qui déterminera une transformation dans l'attitude du nouveau converti vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de son prochain et vis-à-vis de lui-même. Or, cette transformation, ce renouveau, cette renaissance est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui est le principe actif. C'est lui qui est puissance régénératrice. Tandis que le baptisé se trouve justifié devant Dieu puisque ses péchés lui ont été remis, il doit à présent se soumettre à l'action sanctifiante de l'Esprit et grandir avec l'aide de l'Esprit qui l'a conduit à la conversion. Car le baptême n'est pas une fin en soi, c'est le commencement à une vie nouvelle. C'est ici une considération que l'on oublie trop souvent. Le cas des premiers chrétiens est riche en enseignements sur ce point-là. Il est écrit que ceux qui avaient été baptisés, et il y en eut 3000 le premier jour, persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Le nouveau converti fait face à une nouvelle existence. Son attitude envers le passé, le présent et l'avenir est toute transformée. Il entrevoit des horizons nouveaux. Il éprouve, selon l'expression biblique, la paix qui surpasse toute intelligence. Parce que son âme communie avec la source de vie, c'est d'une vie beaucoup plus riche, beaucoup plus profonde, beaucoup plus vraie qu'il vit. Son existence a une direction et une signification. En un mot, elle a un sens. Et même l'épouvantail de la mort est détruit, car la route qu'il suit désormais a été tracée par celui qui est sorti victorieux de la mort. Tout cela paraît quelque peu utopique, quelque peu lyrique, et nous sommes peut-être enclins à demander avec Nicodème qui interrogeait Jésus, comment cela peut-il se faire? L'apôtre Paul répond à cette question dans sa lettre aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On peut donc parler d'une habitation de l'Esprit de Dieu en l'homme, qui rend possible ce développement. Les Écritures disent par ailleurs que Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent, c'est-à-dire à ceux qui se sont convertis et qui marchent selon sa parole. Et que c'est là un don que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il a endurci son cœur contre lui. L'œuvre de l'Esprit dans la vie d'un chrétien est une œuvre de perfectionnement, dont les effets peuvent se constater. C'est un effort en vue de remodeler la vie à l'image du Christ. C'est par sa participation totale et heureuse à ce travail que le chrétien se différencie des autres. L'Esprit de l'homme est ce qui le différencie du reste de la création et ce qui l'en sépare. De même, l'Esprit de Dieu dans la vie d'un homme différencie cet homme du reste de la race humaine. Il est membre de la famille de Dieu. Il est sanctifié, c'est-à-dire mis à part pour le service de Dieu. Par-dessus toute autre considération, le Saint-Esprit rend l'homme capable de vivre saintement. Ce qui est merveilleux lorsqu'on considère l'insignifiance, la bassesse et la vanité qui nous caractérisent si souvent. L'apôtre Paul affirme que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Car celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous ne pouvons pas déduire de ces passages que l'œuvre du Saint-Esprit est indépendante de la volonté de l'homme. Au contraire, les Écritures exhortent le chrétien à collaborer à cette œuvre. Les Épîtres abondent en expressions telles que « Faites tous vos efforts, efforcez-vous, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, croissez, grandissez, etc. » Partout, c'est un appel à l'effort, à la participation, à l'engagement, avec la promesse de l'aide efficace de l'Esprit. L'œuvre de l'Esprit n'est jamais indépendante de la bonne volonté de l'homme. L'Évangile n'est pas une contrainte au salut, c'est un appel et une invitation. Dans l'Ancien Testament, nous avons le cas du roi Saül, qui se laissa envahir par la jalousie, la colère et l'esprit de vengeance. Aussi est-il écrit que l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. L'homme avait refusé de collaborer avec Dieu. Il est vrai que même la vie d'un chrétien est jalonnée de tâtonnements, d'hésitations, de trébuchements et de chutes inhérentes à sa nature humaine. On ne devient pas semblable au Christ du jour au lendemain si on le devient jamais. Mais un effort constant doit caractériser cette vie pour détruire ce qui est mauvais et construire ce qui est bon. Selon l'Épître aux Colossiens, « Si vous êtes donc ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, ajoute l'apôtre Paul, et il y a des agonies qui sont longues. Renoncez à toutes ces choses, et il y a des abandons et des renoncements qui sont réticents et douloureux. Il ressort néanmoins de toutes ces exhortations que l'œuvre de l'Esprit a pour but de nous aider à combattre les tendances désordonnées de notre nature, en plaçant devant nos yeux la réalité des valeurs spirituelles. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. C'est la guerre entre la chair et l'esprit, entre les fruits de la chair et le fruit de l'esprit. Et nous touchons ici au cœur de la question. On juge un arbre d'après ses fruits. Voyons quels sont les fruits de l'esprit par opposition aux fruits du mal. Nous citons ici le 5e chapitre de l'Épître aux Galates. « Je dis donc, et c'est l'apôtre Paul qui parle, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, et même les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, poursuit l'apôtre Paul, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Les vices qui sont ici énumérés ne sont pas des faiblesses. Ce ne sont pas que des travers. Ce sont là des mots hypocrites judicieusement inventés pour masquer la réalité du péché. Et les vertus qui s'opposent à ces vices ne sont pas des rêveries utopiques. Ce sont des réalités vivantes dans la vie de celui qui s'est laissé conquérir par le Christ. La vie d'un tel sera caractérisée non seulement par un effort de renoncement aux influences mauvaises, mais aussi et surtout par la culture de ces fruits de l'esprit qui ambitionnent de remplir toute sa vie. Il est évident par ailleurs qu'ici, comme dans la conversion, l'œuvre de l'esprit est étroitement associée à la parole de Dieu. Les lettres apostoliques encourage maintes fois les croyants à croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, toute vie chrétienne équilibrée se trouve centrée sur la personne du Christ, comme le suggère fortement cette injonction de l'apôtre Paul, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et cette autre exhortation de Pierre, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Ainsi s'établit une communion, une communication entre Dieu et l'homme, entre le Créateur et sa créature, entre le Père et son Fils, comme par une sorte de respiration spirituelle, la vie de Dieu s'entretient dans l'âme, et l'enfant de Dieu régénéré, adopté, recueilli à bras ouverts, grandit jusqu'à ce qu'il parvienne à la mesure de la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire à sa maturité spirituelle.